franceinter.fr.
T'existes plus. Même pour ton père, t'existes plus. T'as été déclarée morte, Carlotta. Alors, t'existes plus pour personne.
Les filles, vous m'entendez?
Yes, I hear you.
Please, I need help.
Close the code.
Allez.
Una are to vous.
Hey, boys! Come save me!
We're gonna be fine.
Say it again.
Una are to vous.
We're gonna be fine.
Now, go wait.
Allez, action!
Action, pourquoi faire?
C'est lui le premier qui foulera cette fameuse moquette rouge, montera vers cette cathédrale et présentera au monde, sur le grand écran lumière, son héros, un cinéaste qui traverse sa vie sans rien y comprendre. Oui, Cannes a choisi un film français pour ouvrir sa 70e édition. On n'y est pas, mais on y est presque. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à toutes et à tous.
Un langage, une dynamique, une liberté, tout cela fait son cinéma depuis 20 ans déjà, comme une longue phrase sans point final dans laquelle se croient ses personnages, sa famille, dont il a dessiné l'arbre. Bonjour Arnaud Desplechin.
Bonjour Christine.
Un dédale de prénoms, Paul, Yvan, Ismaël, Sylvia, de film en film, jusqu'à celui-là, Les Fantômes d'Ismaël, est toujours Amalric au centre, quoique un cinéaste à la veille d'un tournage entre deux femmes, l'une réelle et l'autre fantôme du passé, amour disparu. L'une, c'est Charlotte Gainsbourg, l'autre Marion Cotillard. Bref, du lourd, comme on dit, et surtout deux sacrées actrices dans cette famille dysfonctionnelle. Gainsbourg et Cotillard sont également nos invités. Les Fantômes d'Ismaël, le film sort mercredi prochain, le jour donc de l'ouverture de Cannes. Lui a voulu se réapproprier sa série. Ridley Scott reprend les rênes d'Alien, est-ce bien raisonnable? Alien Covenant, sorti mercredi, tout comme Une famille heureuse. Problemos, 14 ans premier amour. Le chanteur de Gaza est bien sûr au-delà du lot. I am not your Negro. Et enfin, Arnaud Desplechin, cette nouvelle, David Lynch, oui, David Lynch arrête le cinéma et prend sa retraite. Et la troisième saison de Twin Peaks, qui sera projetée à Cannes, serait son dernier salut. Ça vous fait quoi quand un cinéaste dit qu'il va arrêter?
Ah, c'est pas possible, je suis pas d'accord. Je suis en fervent désaccord. David Lynch qui arrête, je ne suis pas d'accord. Il n'a pas du tout l'âge de la retraite. Donc j'ai des images, encore l'image de John Huston sur les gens de Dublin. Là, il y avait des photos de plateau, on le voyait. Il était en chaise roulante, il avait un appareil respiratoire. C'est son fils qui était assistant. Le film Les gens de Dublin, The Dead en anglais, est un de ses plus beaux films. Donc j'espère que l'avenir va faire mentir David Lynch.
Est-ce qu'on programme une fin? Moi, je me rappelle Sorrentino qui dit j'ai encore 3-4 films à faire. Et vous?
Non, pas du tout, je réfléchis pas comme ça, mais il y a Tarantino qui dit parfois des phrases inquiétantes comme ça en disant, mais alors je vois le terme de ma carrière, je m'arrêterai à autant de films, etc. Non, pour moi, c'est une façon de vivre, donc quand j'arrêterai de vivre, j'imagine que j'arrêterai de faire des films, quoique, allez savoir, mais je programme pas de terme.
On va entrer dans celui-là, le 9e, Les Fantômes d'Ismaël.
Il y a 2 ans, je rencontrais Ismaël.
N'avez pas d'enfant?
J'ai aimé des hommes mariés.
Ah, bon, en ce moment, je suis célibataire, donc ça ne nous laisse pas beaucoup de chance, quoi.
Non, aucune. On racontait qu'il avait perdu une femme. C'est votre femme?
Oui, Carlotta. Un jour, elle est partie.
Où ça?
Je l'ai jamais su.
Toi, tu y penses?
Et ça fait 20 ans, ma chérie. Ne sois pas jalouse d'un fantôme.
Vous êtes Sylvia, la compagne d'Ismaël?
Oui.
Je suis sa femme.
Carlotta. Je crois que j'ai vu Carlotta.
Ne me parle pas de Carlotta, je veux plus entendre parler d'elle.
Elle est en vie. Elle t'attend en bas.
C'est moi.
Oui.
Ça fait combien de temps?
21 ans, 8 mois et 6 jours.
J'aurais préféré qu'elle soit morte. T'existes plus.
J'ai besoin de toi.
Moi, j'ai pas besoin de toi.
Qu'est-ce que t'es venu faire ici?
Oh, je crois que tu le sais.
Je te plais quand même?
Quand même.
Tu vas y arriver.
Je suis terrifiée.
Je veux pas que t'aies peur. Je veux pas que t'aies peur, mon amour. Je vais arracher ton masque. Et je ferai de toi un prince.
Vous devez aller au ministère public, ils annuleront le jugement. Vous pourrez récupérer votre patrimoine.
Est-ce que je peux récupérer mon mari ?
Voilà les fantômes d'Arnaud, non pardon, les fantômes d'Israël.
Sublime musique d'Ismaël. Sublime musique de Grégoire Hetzel.
Ouais.
C'est magnifique ce qu'il a fait. Vraiment, ouais.
Ouais. Votre film Arnaud Desplechin, dans lequel Ismaël s'est Mathieu Amalric, tiens, bizarre, un metteur en scène à la veille du tournage de son nouveau film, il a rencontré Carlotta. C'est Charlotte Gainsbourg, et alors qu'elle avait disparu 20 ans auparavant, son amour de jeunesse, Sylvia Marion Cotillard, revient, un fantôme du passé. Ça, c'est un des films dans le film, parce qu'à côté de ça, il y a Yvan Louis Garrel, jeune diplomate, et puis il y a un peu d'espionnage. Comme vous dites, il y a une pile d'assiettes de fiction.
Mais...
Et pourquoi ?
Ben j'avais le désir comme ça de il y a le mot savant potlatch comme ça c'est cérémonie où vous avez des invités vous cassez tout dans la maison pour montrer que vous dépensez que vous offrez quelque chose. Alors il y avait cette idée comme ça d'un potlatch de fiction, c'est de compresser de la fiction, de prendre des morceaux de fiction tout là où ils se trouvent et de les tasser ensemble en même temps que vous y soyez perdu et en même temps de vous tenir par la main pour que vous trouviez votre chemin à travers toutes ces fictions compressées.
Je crois que vous nous parliez d'un potlatch qui est un plat de votre région d'origine du Nord et qui mélange plusieurs viande.
C'est vrai qu'il ressemble à ça, qu'il y a un peu la même chose. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est l'idée qu'il y en ait beaucoup. Quoi. Voilà. Moi, j'aime beaucoup la fiction. L'idée que ce soit un hommage au cinéma, l'idée qu'il y ait beaucoup de fiction, qu'il y ait trop de fiction.
C'est un hommage aussi à votre cinéma, parce qu'on retrouve des personnes... Comme je disais, vous avez écrit l'arbre généalogique. Il est bizarre, hein, votre arbre. Parce qu'il y a des gens. Il y a Paul Dédalus, qui était Amalric dans Comment je me suis disputé. Émile Berling dans Un conte de Noël. On a fait le truc avec Laurent et Sylvia. C'est Chiara dans Conte de Noël. Denis Cour dans Comment je me suis disputé. Cotillard dans celui-là. Ismaël, c'est Amalric dans Rois et Reines. Et dans celui-là, Yvan, c'est Garel. Et votre frère dans Comment je me suis disputé. Il n'y a que vous qui vous y connaissez là-dedans.
Et encore.
Moi, je m'y repère. Non, je m'y repère. Je m'y repère assez bien, mais c'est un truc que j'ai piqué à Bergman. Donc voilà, c'est juste ça. C'est, je me suis rendu compte. Vous voyez, chez Ingmar Bergman, je me rendais compte au troisième film, je voyais Anna Vogler. Mais encore elle. Où je voyais le couple maudit, le couple malheureux, les vergers russes. Alors, vous voyez, c'est des masques que j'utilise et avec lesquels je jongle. Et j'ai l'impression, oui, qu'à chaque film, c'est comme si Mathieu et moi on montait au grenier, que je pense aux scènes du grenier à la fin quand Ismaël s'est enfui à Roubaix, et puis on sort de Playmobil, trois masques, un costume, et on essaie de réinventer du nouveau avec quelques accessoires. Quoi.
Les fantômes d'Ismaël, c'est aussi l'histoire d'un homme vivant, donc Ismaël qui a rencontré Sylvia, c'est Charlotte Gainsbourg, au cours d'un dîner où elle sera séduite. Le plan sur elle, Arnaud Desplechin, est un des plus beaux qu'on ait vu. Dans vos films et par rapport à elle, c'est-à-dire que on la regarde carrément tomber amoureuse. Comment on obtient un plan pareil ?
Il y a plein de choses qui... Vous voyez la musique qu'il joue, Mathieu Amalric est en train de jouer au piano, il joue très bien, il a tous les talents ce garçon, et il joue le thème de Marnie, qui est un thème composé par Bernard Herrmann, Marnie étant un film d'Hitchcock, et alors il joue ça et la caméra panote et on arrive sur elle, il y a toute une complicité, il y a ses textes cachés, et après il y a Mathieu qui fait l'andouille à table et elle le regarde, et pendant qu'elle le regarde elle se saoule, elle l'aime et elle ne peut pas le lui dire, elle le craint, il y a les deux, alors il y a tout ce qu'on s'est dit, il y a le... Avant, on avait enregistré juste Charlotte et moi les voix off tous les deux. Je me souviens, il disait ah des voix, une voix off, comme c'est bizarre. Vous voyez, parce que ça lui faisait bizarre un peu suranné. Vous voyez comme on usage des iris ou l'usage que tout d'un coup Sylvia se retrouve en narratrice. Alors ça crée comme ça une complicité. Et puis il y a tout ce qu'on s'était dit avant le tournage. Il y a quelque chose que je trouve déchirant dans ce portrait de Sylvia, c'est que ils n'ont pas 20 ans. C'est pas une histoire comme le film précédent. Ils n'en ont pas 30. Ils ont passé les 40. Alors vous voyez, des chagrins amoureux, de rater une histoire d'amour, ça arrive, c'est pas très grave, ça vous prend 10 ans. Même leur 10 ans, ça repousse. Vous voyez, on arrive à des âges dangereux, quoi. Alors, elle est restée comme ça, à côté de la vie, un peu en spectatrice. Et voilà qu'elle, peut-être, elle peut entrer dans la vie. Et ce type fait un peu peur, est extrême et un petit peu l'opposé d'elle. Et s'il se rate, il rate ce que les Américains appellent cette second chance. Mais non seulement c'est une deuxième chance, mais peut-être leur dernière chance de rentrer dans la vie.
La voilà, Charlotte Gainsbourg.
Qu'est-ce que t'es venue faire ici ?
Oh, je crois que tu le sais.
Oh non. Bon, quand j'ai récupéré Ismaël, c'était un vieil homme. Et je l'ai arraché à toi. Et maintenant, il a une vraie vie. Pourquoi tu hausses les épaules ?
Ismaël se joue la comédie ?
Non.
C'est lui, mon enfant.
Tu te trompes. Tu le connais plus. T'es venu me détruire ?
Non. J'ai toujours pensé à Ismaël. Il est dans mes pensées.
Mais pourquoi tu es ici aujourd'hui? Pourquoi pas il y a 2 ans?
Avant, j'étais pas libre. J'étais mariée.
Mais il est où ton mari?
Mon mari est mort.
T'es folle!
Et moi, je suis là.
Tout ce que tu dis, c'est du poison!
Sylvia, je suis venue reprendre mon homme.
Tu es laide. Tout ce que tu dis, c'est laid.
Comment on entre? Comment on entre dans l'univers d'un nouveau metteur en scène? Par ses films, en discutant avec lui, juste le scénario et le rôle?
Moi, je me mettais pas mal de pression. Le fait qu'il nous mâche autant le travail, parce qu'il prépare énormément et il joue les scènes.
Bien.
On le voit pas, mais il nous dit. Donc on sait qu'il a déjà tout... Enfin, c'est normal pour un metteur en scène de réfléchir à sa journée, à ses scènes. Mais là, il le fait vraiment très en détail. Donc, moi, je sentais que je passais après. Il fallait, j'espérais, le surprendre suffisamment pour que ça vaille le coup enfin, d'être là et de... C'était pas que le satisfaire, c'était aussi le tenter de le surprendre. Donc là, j'ai fait la démarche de l'appeler, enfin de lui écrire. Et je trouvais que le temps passait et que on s'était toujours pas trouvé sur un film. Donc, et il m'a dit, ben, je viens d'écrire un rôle qui... Enfin voilà, qui... Je sais pas s'il m'a dit qu'il avait écrit... Je suis pas sûre qu'il l'ait écrit pour moi, mais il m'a dit qu'il avait un rôle pour moi, en tout cas.
Qu'est-ce qui vous a... Je suppose que vous ne faites pas souvent ce genre de démarche d'écrire à des metteurs.
Jamais.
Alors ouais, pourquoi lui?
Parce que je trouvais que depuis Esther Kahn, on s'était raté à plusieurs. Alors Esther Kahn, on s'est rencontrés et il m'a pas choisi. Donc j'étais hyper déçue. Et après, il m'a proposé d'autres rôles et que j'ai pas pu faire. Donc, il y a eu plein de rendez-vous manqués un peu. Enfin, manqués, pas pour moi. Hein. Oui. Donc, je trouvais ça normal de lui faire signe.
C'est une histoire triangulaire, un homme, deux femmes. Bien sûr, il y a d'autres histoires après dans le film. Mais Ismaël, vous avez vu des concordances avec Desplechin? Sur ce metteur en scène, ce type qui essaie d'écrire son film.
Bah oui, j'ai vu...
Comme un double?
Oui, mais je le vois dans... Enfin, je trouve à chaque fois qu'il met Mathieu en scène, hein, je le vois lui. Enfin, je le connais pas, Arnaud, hein, mais j'ai l'impression qu'il se met en scène et que Mathieu lui permet ça. Avec une fantaisie différente, hein, sans doute. Mais donc, bien sûr, dans Ismaël, je voyais Arnaud, évidemment, et je pense que c'est un peu ça le but et c'est ça le jeu. Après, ils étaient très très pudiques avec leur complicité, parce que ça peut faire peur aussi de voir un rapport aussi fort entre un metteur en scène et son acteur fétiche. Donc ils nous l'ont pas du tout mis dans la gueule comme ça. Ils étaient très très discrets et très... Enfin, on aurait pu croire que c'était la première fois qu'ils travaillaient ensemble. Tout juste. Ouais.
Dans la réalité, comme dans le film, c'est presque impossible de se battre contre un fantôme. Et c'est ce que vous faites.
Oui, exactement. Et c'est pour ça que je pars. La tête dans mes étoiles. Mais c'est qu'il n'y a pas de place. Et elle s'en rend compte tout de suite. Elle veut pas de cette rivalité. Enfin, voilà, c'est quand lui demande de se battre, il y a pas de combat, en fait, effectivement.
C'est pas une question, mais on trouve tous les deux que c'est un de vos plus beaux rôles. Vraiment. Est-ce que vous êtes consciente...
Non, vous n'étranglez pas pour autant.
Est-ce que vous êtes consciente qu'il vous a fait faire des choses que vous n'avez pas fait dans d'autres films, vous voyez?
J'avais peur d'aller dans ces eaux-là. Mais c'était très sur l'émotion, sur un charme éventuel, des sourires, des... Et pas en force. Voilà. D'avoir Arnaud comme chef d'orchestre, c'est pas rien. Donc je pense qu'il sait ce qu'il fait. Et c'est... Je trouve qu'il y a... J'aime bien avoir confiance et pouvoir avoir confiance dans des metteurs en scène qui sont aussi talentueux, évidemment, parce que c'est l'air de rien, en fait. Donc voilà, il y a des choses qui se font sans qu'on fasse gaffe et ça s'opère tout seul.
Vous l'avez écouté alors ?
Ouais, ça me bouleverse. Je pense, mais quelle chance j'ai ! Quelle chance j'ai, vous vous rendez compte ?
C'est aussi un cocktail d'actrices. Hein.
C'est les deux. C'est les deux femmes. Ils sont les deux stars. C'est pas les deux seules. Je pense à Isabelle Huppert, à d'autres actrices au combien. Mais enfin, les deux stars internationales comme ça, françaises. Chacune a son art à un endroit tellement différent de l'autre. Et les avoir les deux dans le même cadre. Vous voyez, j'entendais l'extrait où elles se disputent comme ça sur ce, devant le paysage de Noirmoutier qui est magnifique et tout ça. Je me dis, j'ai eu la chance de diriger ces deux-là en même temps. Mais j'en reviens pas encore.
Alors qu'il y a 20 ans, vous aviez engagé Marion Cotillard dans Comment je me suis disputé.
Ah, mais c'était pas la même. C'était pas la même.
Eh ben, elle se souvient.
J'étais tellement mal à l'aise. La nudité me... Enfin, à l'époque, j'avais l'impression qu'il fallait tout donner, donc... Et passer au-delà de ces malaises, mais ça le gommait pas, en fait, entièrement. C'est vrai que j'avais passé le tournage un peu... très mal dans mon corps, très mal dans tout, et en même temps avec cet émerveillement d'être sur un plateau de Desplechin, cet émerveillement de faire du cinéma, de faire la chose dont je rêvais, et avec un si grand réalisateur, c'était un peu fou.
Je regardais cette fille et je pensais que ça, elle en culotte qui dansait, c'était l'image la plus exacte de l'Esprit Saint. Tu te souviens, les petites flammes de la Pentecôte après Pâques ? Non mais c'est la Pentecôte, tu te souviens de rien. Le Christ s'en va, il monte au ciel, et au-dessus de la tête des apôtres, ils sont à table, il y a des petites flammes qui dansent. C'est le troisième temps de Dieu, c'est l'absence de Dieu, mais qui maintenant est une joie. Et j'aimais tellement voir cette flamme en elle.
Ben revois-la, cette fille. T'es pas obligé de te convertir pour autant. Tu la revois et puis tu la sautes et c'est vachement bien. Attends, tu sautes la Pentecôte, c'est déjà pas si mal.
Non ouais, non, mais c'est pas tellement que... Enfin, comment dire... Je suis pas obligé de la revoir, cette fille, tu vois. Je suis pas l'épouser parce qu'elle habite au-dessus de mon garagiste, quand même.
Eh ben, la revois pas, alors. Voilà, on a repassé la scène de Comment je me suis disputé, où on voit effectivement Marion Cotillard dans cette chambre avec lui, elle est merveilleuse, elle se dénude. Elle se dénude encore dans celui-là. Hein.
Dans celui-là encore, oui. C'est curieux, hein, c'est un hasard. Je vous disais au début, c'est pas la même femme, c'est une chose qui me tient à cœur. Je vis encore sous le choc de la môme. Qui a été vraiment un choc pour moi. On se connaissait un tout petit peu puisque nous avions tourné ensemble, et je vois la môme et je vois avec une joie comme ça cette capacité à s'inventer soi-même, et si elle est devenue à ce point-là une star américaine, je pense que cette invention de soi-même, c'est un thème très américain.
Et à s'investir énormément aussi.
Elle s'investit énormément, mais elle est jamais, elle construit un mythe. Et elle le laisse tomber, elle en construit un autre le lendemain, et puis après elle est chez les frères Dardenne, et puis la voilà dans Mal de Pierre, et puis la voilà chez Woody Allen, et vous savez pas ce qu'elle va vous réserver. Et cette capacité à s'inventer, c'est pour ça que je dis c'est pas la même. Et pourtant je la rencontrais, c'est curieux, c'est les hasards de les hasards ou aller savoir, je ne sais quel détour. Je l'avais rencontrée, donc sur Comment je me suis disputée, j'avais été frappé, je savais pas ce trac qu'elle éprouvait, et je savais le grand trac que moi j'éprouvais, je devais filmer la nudité de cette jeune femme, et donc j'avais rencontré plusieurs jeunes actrices, et j'avais dit, voilà, c'est une scène que je ne sais pas faire, donc il faudrait que vous, est-ce que vous voudriez bien m'y aider? Et la réponse de Marion avait été franche et droite, elle m'avait dit, ah mais il n'y a aucun problème, je vais vous y aider. Alors voilà, alors on s'était retrouvés à faire gauchement comme ça, et elle jouait l'Esprit Saint, ce qui est pas rien. Et voilà. Alors là, c'est différent parce que c'est un petit diablotin dans l'île. Elle est un petit peu comme un petit diablotin, même si elle termine tout le, même si Marion dans Les Fantômes d'Ismaël termine tout le film comme une sainte quand son amour la conduit vers son père. Elle a tout la première partie comme ça en diablotin et le deuxième visage en sainte. Et pourtant, c'est une seule et même femme, c'est Carlotta. Et ça, c'est, pour moi, c'est le signe vraiment d'une très très grande performance. Actrices.
Marion Cotillard qui a un défi certain, effectivement, jouer un fantôme qui revient, être ou ne pas être, sacré défi.
Mais en fait, on ne le joue pas vraiment, parce que le mystère est écrit déjà, et l'écriture de Desplechin, c'est magnifique. C'est un grand auteur, doublé d'un grand réalisateur, donc en fait, on n'a pas à le jouer. C'est déjà là.
Il sera en plateau avec nous, donc il va vous entendre. Non, mais c'est comment de tourner avec lui? C'est comment? Est-ce qu'on fait beaucoup de prises? Est-ce que il a l'exigence comme des Dardennes où il faut faire quelque chose en même temps que vous parlez à ce moment-là? Est-ce que c'est millimétré comme chez les Dardennes, par exemple?
C'est incomparable. On peut pas comparer. On ne peut pas comparer le génie des Dardennes et le génie de Desplechin. Ce serait réduire à une comparaison. C'est absolument impossible. Mais c'est quelqu'un qui enrobe la proposition de l'acteur de son univers qui est si particulier. Il y a des voix d'acteurs qui sont très reconnaissables. On entend la voix de Bernadette Lafont, par exemple. Immédiatement, on sait que c'est elle. On entend la voix de Jean-Pierre Léo. Immédiatement, on sait que c'est lui. Et on voit une scène de Desplechin. On sait que c'est un film de Desplechin. Il a cet univers et ce ton qui lui est si... Enfin, qui est si particulier, qui lui est propre. Il a inventé son cinéma. Et du coup, nous, on est invités à l'intérieur de ça, de cet univers qui est si fort. Et en même temps, on a la liberté de donner ce qu'on a compris et ce qu'on a reçu du personnage. Et il nous donne cette liberté. Et en même temps, il imprime sur nous son univers, c'est quelque chose de très organique quelque part. Après, il y a une grande précision chez lui dans l'écriture, et il y a du coup déjà à l'écriture la façon dont il dirige un acteur, et son écriture est tellement forte que plonger dedans, c'est lire un grand auteur, c'est d'une facilité, d'une simplicité quelque part. La complexité, elle est dans ce qu'on raconte. La richesse, elle est dans ce qu'on raconte. Mais il y a une vraie simplicité à dire des mots si forts.
Des Dardennes, vous disiez que leur leçon, c'était pas de performance. Ce qu'ils disaient par rapport au jeu, à votre jeu. Je pourrais dire que chez Desplechin, c'est à peu près pareil, non?
Oui, avec un univers et un ton, encore une fois, totalement différent. Ouais. Chez les Dardennes, et encore une fois, je j'ai pas envie de comparer, mais il y a cette recherche de l'hyper réalisme. Chez Desplechin, il y a une, il s'en fout d'être réaliste ou pas. Il va chercher une authenticité autre part. Ouais. Il va chercher l'authenticité dans son univers qui est très très particulier.
Sa vérité.
Oui, bah de toute façon, chaque réalisateur cherche sa vérité et cherche à donner sa vision du monde le plus justement possible, mais basé dans son univers. Mais comme d'ailleurs les Dardennes le basent dans leur univers qui, qui est au plus proche du réel. Chez Arnaud, il y a pas d'envie de d'être super réaliste dans l'écriture déjà. Et il y a en plus dans ce film une espèce de folie, une patte hitchcockienne super assumée. Et c'est un peu un Hitchcock sous acide. Il y a quelque chose de baroque quelque part. Et puis en même temps, il y a toujours eu quelque chose d'assez théâtral dans son cinéma qui. Et moi, c'est ça qui me touche dans son cinéma, c'est-à-dire qu'on arrive à s'identifier à des personnages qui parlent parfois super bizarrement, qui parlent parfois de manière théâtrale, mais il y a quelque chose qui passe parce qu'il a créé ça dans son univers, il a inventé une forme de cinéma qui est la sienne. Voilà.
Avec quand même une constante, c'est les femmes sont fortes et les hommes sont quand même faibles, globalement.
C'est bien, ça change. Oui, il y a une fascination de la femme chez Desplechin qui offre aux actrices des rôles absolument sublimes et aux acteurs des rôles absolument sublimes parce que dévoiler la faille, disons, plutôt que la faiblesse de l'homme, c'est très beau.
J'ai l'impression que vous ne regrettez pas d'être venu ce matin, Arnaud Desplechin.
J'ai mes oreilles, c'est du miel dans mes oreilles. Non mais c'est pas que ça, c'est d'entendre ces femmes penser. Ça m'intéresse la pensée qu'elles ont de Laura.
Mais je suppose que vous avez discuté avec elles de tout cela.
On s'est pas parlé avant, on s'est pas concerté en disant mais toi tu vas répondre quoi à
non,
la radio,
non,
etc.
Non, mais par rapport au film et leur compréhension et de votre univers, etc.
On en a un peu parlé. Vous savez, des fois ça passe pas par les mots, des fois ça passe par d'autres choses. Ça passe les essayages des costumes. Vous voyez, ça me touche qu'elle parle d'Hitchcock parce que j'avais évoqué. Vous voyez, parce qu'elle, je vous disais, elle termine le film comme une sainte, comme ça à la recherche de son père. Alors elle a ce manteau blanc qui peut faire penser au manteau blanc de Kim Novak dans Vertigo, mais c'est pas le même. Et une fois, je vous disais, cette puissance qu'elle a, Marion, à créer du mythe, et en même temps, voyez comme elle parlait des Dardennes, ou comme elle parlait d'elle-même, ou comme elle disait, on s'en fiche des références, elle sait laisser tomber ça. Et ce qui m'intéressait, je crois, c'est ce qui l'intéressait elle, chez Carlotta, c'était la montrer comme une vraie femme. C'est-à-dire, évidemment que c'est un mythe, quelqu'un qui revient après plus de 20 ans de disparition, c'est un mythe, mais c'est de raconter la réalité de cette femme. Il y a une réplique que j'aime bien comme ça, c'est au tout début de la rencontre entre Charlotte et Marion. Charlotte lui dit, vous voulez que je vous prête des vêtements? Et Marion lui dit avec un sourire, c'est parce que je sens mauvais. Oui, elle sent mauvais, elle s'est pas lavée, donc, un peu, voilà, quoi. C'est juste une vraie femme, donc quand elle se lave pas, elle pue, voilà, c'est tout. Et sauf que c'est cette vie qui est là, qui arrive, et qui est incontestable. Alors, on entendait dans un des extraits, que vous passiez, il y avait Charlotte qui disait, j'aurais préféré qu'elle soit morte. Oui, mais non. Parce qu'elle est en vie, elle est incontestable. On la voit quand elle danse, elle est un bloc de vie. Marion, elle a cette puissance de vie en elle qui explose comme ça, et qui est incontestable, et qui laisse les autres pantois, et qui fait que Gainsbourg s'enfuit devant ce fantôme, parce qu'il est le contraire d'un mythe. Il est juste une vraie femme, qui est là, imparfaite, singulière, et c'est ce que Marion Cotillard a offert, c'est cette réalité-là.
Il s'en fout d'être réaliste, vous êtes d'accord?
Oui, complètement. Oui, je sais pas. C'est marrant, hein, parce que ça fait vraiment pas. J'écoutais aussi Marion et je me disais, alors j'ai un défaut, c'est que je suis trop littéraire, mais j'ai une qualité, c'est que je suis assez romanesque. J'espère que ma qualité fait oublier mon défaut. Mais le réalisme, le cinéma réaliste compte beaucoup pour moi. Je pense par exemple, elle parlait des frères Dardenne pour qui j'ai une admiration infinie. Et c'est des films qui me touchent beaucoup, mais c'est pas mon rayon, c'est pas là-dedans que j'exerce. Moi, c'est vrai que j'exerce ailleurs, dans un truc qui est plus rêvé. J'espère qu'il dit la vérité, la vérité sur ce que nous sommes chacun. J'espère que ça parle des spectateurs, que ça les peint autant que ça peint mes propres fantômes, que ça peint les spectateurs qui regardent le film, mais à travers des fables.
Il est beaucoup question de perspective, justement, dans le film, de perspective picturale. Et j'ai l'impression que pour filer la métaphore sur les hommes et les femmes, finalement, l'idée, c'est que les hommes sont sans perspective et les femmes ont toujours des perspectives et sont toujours dans la perspective.
Oui, ouais, c'est un trait qui me frappe, mais que j'intellectualisais pas. Alors maintenant, je le raisonne parce que je suis devant vous, alors je suis intimidé, alors je le raisonne. Mais c'est que j'aime bien montrer des femmes qui sont en face d'un destin. Et souvent, c'est vrai que c'est réservé aux personnages masculins. Vous voyez, vous imaginez Gary Cooper, il est devant son destin. J'adore Gary Cooper. Mais là, c'est les femmes qui sont devant leur destin. Les hommes, ils sont comme des fétus dans mes films. Ils sont ballottés par les événements. Ils savent pas du tout ce qui leur arrive. Ils comprennent pas. Ils ont pas de destin. Ils ont juste des péripéties. Et alors, ça me plaît que les femmes, et dans mes films, se privilègent.
Ça s'appelle Les Fantômes d'Ismaël. Ça va ouvrir Cannes mercredi prochain.
C'est magnifique.
Et ça sort en salle en même temps. Merci. On se retrouve pour les sorties après Smoke of Dreams.
Crazy city's dim light, and the silhouettes that fall from grace, and they are laughing in love. Smoking ghosts find pleasure in your funny presence, sweetheart. They risk capture to be crushed, aroused in tune to cheap machines. Flashing time down the street, holding hands on the subway, and the smoking spirits, they will take you in. They wait for you in their shadow. New York City is everything. Sing the ghost dance healer.
On va commencer par Alien, Covenant de Ridley Scott. Fallait-il y retourner? Déjà, Prometheus était une énorme déception et cette fois, les membres d'équipage du vaisseau Covenant, à destination d'une planète située au fin fond de notre galaxie, décident de s'arrêter sur une autre planète un petit peu avant, qui a l'air d'être un paradis, mais en fait qui est un monde sombre et dangereux, cachant une menace terrible. Le premier tiers du film ressemble au premier, la présentation d'un équipage dont on sait qu'ils vont, pour la majorité, se faire bouffer avec tout de même deux bonus. Un, les très belles images du cosmos, c'est vrai. Et le deuxième, pour la nouvelle Sigourney Weaver qui s'appelle Catherine Waterstone, qui est très convaincante dans sa virilité. Les deux autres tiers, eh bien, c'est l'attaque des nouveaux aliens sur la planète, qui sont désormais le résultat de l'écosystème, et s'introduisent comme du pollen de pissenlit dans les oreilles et par les narines, et ressortent créatures par le et non, plus, et non plus la poitrine. Non, c'est joli ça. Que dire de ces victimes du vaisseau? Eh bien, qu'on n'éprouve pas grand-chose à les voir mourir, étant donné que Ridley Scott n'a pas eu le temps et l'attention de nous les faire aimer. Reste le duo freudien biomécanique deux androïdes jumeaux, qui sont David le gentil, Walter le méchant, joué par Michael Fassbender et Michael Fassbender. Donc, en insistant bien encore, on n'aurait pas bien compris sur les motivations du démiurge fou, sans compter le twist final assez attendu. Laurent, fallait-il vraiment deux autres films, Prometheus et celui-là, pour nous expliquer les origines et les causes, et surtout nous déflorer toute la magie des aliens?
Oui, ça n'a pas grand intérêt. Je crois que Ridley Scott n'a plus grand chose à dire de ce point de vue-là. Espérons qu'il ait d'autres choses à nous montrer. Alors, on reverra avec un bonheur inégalé le premier Alien, qui est, à notre sens, je crois, un chef-d'œuvre absolu. Et puis, les éditions Bragelonne nous permettent de lire les novélisations des quatre aliens, de quatre séries d'aliens. Donc ça, c'est merveilleux, dans un très beau bouquin, avec une belle couverture où on voit tout le talent de Guiguerre, qui est, vous savez, le designer de l'univers réellement. Et ça, c'est très beau, avec un beau cahier photo en plus. Donc, après tout, n'allez pas voir le film, lisez le livre.
Voilà. Le deuxième film, c'est notre préféré, et ça s'appelle I Am Not Your Negro, de Raoul Peck. On avait fait toute l'émission la semaine dernière dessus, mais je crois que Arnaud Desplechin, vous l'avez
vu.
Mais je l'ai vu, oui, je pouvais pas rater un film sur James Baldwin. Je sais que j'aime à citer un roman qui a vraiment changé ma vie, qui est Harlem Quartet, qui est un roman qui me bouleverse, qui était mon quatuor d'Alexandrie à moi. C'était le quatuor qui se passait à Harlem, et c'est un livre magnifique. Et sur la cause afro-américaine et la présence, le film est de Peck est merveilleusement fait. Tous les extraits avec Baldwin sont vertigineux. On redécouvre une histoire, l'histoire tragique de la libération de la ségrégation, libération qui est toujours à reconduire, hein, qui est toujours en question, qui est sans fin.
C'est le film est
infiniment contemporain. Nous sommes les contemporains de Baldwin. Et le fait que le poète parfois porte une parole de puissance qui dépasse la parole des politiques. Et là, le poète Baldwin a une parole qui est plus forte encore que celle des hommes politiques.
Avec un montage très puissant.
Très puissant.
Une BO à couper le souffle.
Ça se termine. Oh là là, c'est magnifique. Ça se termine avec la chanson de Catherine Clamart, qui est magnifique. Très très beau film. Ouais.
Alors là, on passe à autre chose. Problemos, d'Éric Judor, en référence sûrement à Podemos, la description d'une petite communauté zadiste, les irréductibles qui prônent dans leur champ le vivre autrement, et où sont abolis l'individualisme, la technologie, et une genre de communauté que va rencontrer ce couple de bobos parisiens, incarné par Blanche Gardin et Éric Judor. Et c'est assez drôle, hein, sur le décalage bobo et néo-babos. Surtout Éric Judor et ses répliques qui fracassent ce rêve écolo. Potache, absurde comme on l'aime. Et puis, là, dès que la pandémie s'annonce, Laurent, et qu'il s'agit vraiment de vivre ensemble, le film devient poussif dans sa critique antisociétale. Et ce n'est pas ce qu'on attend de ce garçon à l'humour absurde, et qui n'est pas si absurde dans celui-là.
Pas vu.
Ah, pas vu, vous n'avez pas vu le film.
Pas pris. Non.
Comme c'est dommage. Alors, il faut aller revoir. Moi, j'adore cet humour.
Moi, j'aime beaucoup.
Complètement régressif. J'adore.
C'est un homme très, très talentueux.
Intelligent.
Il a un esprit incroyable. Il a des blagues. On ne sait pas d'où ça vient. Oui. On ne comprend pas où il invente ses blagues. Non, Judor, c'est vraiment une figure fascinante.
Vous qui aimez le cinéma américain, c'est très proche de Will Ferrell et
de cet esprit-là. Oui, de cet esprit-là. Oui, tout à fait.
14 ans, premier amour, de Andrei Zaitsev. C'est un russe, et c'est un peu un Roméo et Juliette dans la banlieue résidentielle de Moscou.
Un peu, mais non, le problème c'est que c'est pas un peu, c'est beaucoup. C'est beaucoup.
C'est bien un peu beaucoup Roméo et Juliette.
C'est-à-dire que Roméo et Juliette, il y avait un type, oui, quand on s'appelle Shakespeare, tout va bien. Il faut vraiment avoir beaucoup, beaucoup de talent pour renouveler le genre. Et alors là, franchement, Alex et Vika, c'est donc Roméo et Juliette, là. C'est de la une sorte d'histoire de dragouille entre adolescents, alors entre Facebook, les copains qui sont
grands moquent, la timidité des ados. Enfin, écoutez, tout y est donné et il ne reste rien. Quand c'est réussi, genre de film, ça donne Les Beaux Gosses. Quand c'est raté, ça donne ce film-là. Voilà, alors on espère qu'on verra des nouvelles russes un peu plus clinquantes et brillantes à Cannes bientôt.
Bon, ne perdons pas de temps. Alors, allons s'il plutôt vers un film qui plaira beaucoup à Arnaud Desplechin, je suis sûr. C'est Une famille heureuse, un film géorgien. Alors, c'est sur une professeure de lycée à Tbilissi qui est mariée depuis longtemps, qui vit avec non seulement son mari, mais ses parents, ses vieux parents, avec ses enfants. C'est un bordel pas possible, cette famille. Et un jour, cette femme décide, alors que la tradition, le patriarcat est très fort dans cette région, de partir, de s'installer seule pour redécouvrir sa liberté en regardant sa famille de loin avec ses failles et ses faiblesses, n'être ni plus ni mère, ni fille, juste une femme et une femme émancipée, Laurent.
Oui, c'est un très beau film parce qu'il y a beaucoup de cinéma dans la mesure où je crois qu'on pourrait résumer et amplifier le propos du film en disant que c'est l'histoire d'un appartement trop plein et de la façon dont quelqu'un va investir un appartement vide et qu'elle va remplir, mais d'elle-même juste, pas de sa famille, pas de tous ces épiphénomènes que vous avez si bien décrits à Roubaix, notamment Arnaud Desplechin dans Un conte de Noël. Elle va ailleurs, et ça c'est un très très beau destin de mère courage comme ça, qui accepte le vide d'un nouvel appartement, d'un nouveau lieu et d'une vie à remplir.
On regrettera juste une fin un peu abrupte et pas à la hauteur du film. Il faut quand même le dire.
Oui, je suis pas tout à fait d'accord. Mais enfin bon, allez voir Une famille heureuse, s'il vous plaît.
Ouais, Little Boy de Alejandro Monteverde. Alors que son père vient de partir pour la Seconde Guerre mondiale, Pepper, petit garçon de 8 ans, reste inconsolable. Et avec la naïveté de son âge, il est prêt à tout pour faire revenir son papa. C'est quoi? C'est un drame de guerre, une comédie, un film fantastique, un film chrétien?
C'est un navet. C'est un lourd pudding américain. C'est, voilà, non, mais il faut dire les choses, appeler les choses par leur nom, quoi. C'est incroyable de bêtises, de lourdeur, d'indigestion du spectateur face à ce petit garçon qui est niaiseux, qui est bête, qu'on a envie de claquer finalement, et dont on se fiche éperdument de son destin alors qu'on devrait être en empathie avec lui. Et puis il y a même des images très très limites sur les rêves qu'il fait autour d'Hiroshima, par exemple. Ça devient là vraiment assez indécent, même, je trouve. Donc franchement, s'il y a un film à oublier cette semaine, c'est bien ce Little Boy.
Le chanteur de Gaza, c'est un film palestinien de Hani Abou Assad. Un jeune palestinien prend son destin en main pour réaliser son plus grand rêve, chanter. Tiré d'une histoire vraie, celle de l'émission de télé Arab Idol, la nouvelle star des pays arabes, et de ce jeune gagnant venu disputer sa finale depuis Gaza, mais de façon totalement clandestine jusqu'au Caire, pour la gagner. Voilà, c'est une belle histoire recouverte de miel et de sucre. On regrettera quand même la veine plus politique de ce cinéaste, l'auteur notamment de Paradise Now.
Oui, je suis bien d'accord avec ça quand même. C'est un peu trop mielleux et sucré.
Souffler plus fort que la mer, c'est un premier film signé Marine Place. De quoi ça parle?
J'ai pas envie d'être méchant avec ce film parce que c'est un premier film qui est très joliment filmé avec trois acteurs qu'il faut citer. On connaît les deux principaux, c'est Aurélien Recoing et Corinne Maziero. C'est pas une nouveauté que ce sont des très beaux acteurs et des très bons acteurs qu'on a peut-être pas assez suffisamment dans le cinéma français. Et puis une découverte s'appelle Olivia Ross. C'est l'histoire d'une famille qui a des énormes problèmes économique, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est un peu ténu, ça manque peut-être un peu de chair scénaristique forte, mais en même temps, je trouve que pour un premier film, c'est assez prometteur. Voilà, ce soufflet était quand même à voir.
Je pense que ces deux reprises vont vous dire quelque chose, Arnaud Desplechin, c'est Les Complexés, Franco Rosi, Dino Risi.
C'est un film à trois sketchs. Alors bon, c'est l'époque délirante. C'est pas ce qu'il a fait de mieux, Rizzi, avec ses deux acolytes, mais quand même, Sordi, Manfredi, Tognazzi, de toute façon, c'est du
avec ces trois-là, c'est bien.
On est sûr d'y aller.
Et on parlait de lui en ouvrant, mais il y a grand film qui ressort de Monsieur David Lynch, c'est Mulholland Drive. Est-ce que c'est un de vos préférés?
Oui, Mulholland Drive, oui.
Vous avez tout compris?
Non, rien.
Non, comme tout le monde.
Mais c'est pas le problème.
Mais c'est un peu le problème quand même.
Mais non, pas du tout. Non,
mais c'est une splendeur. Attendez, plastiquement, c'est une splendeur. Il y a une puissance de rêve dedans qui est folle. C'est terrifiant. Ça fait très très peur. Non, David Lynch, c'est un des cinéastes qui fait le plus peur.
Oui, moi je sais.
Non, c'est vraiment ces images qui vous hantent. Mais
moi, c'est Lost Highway où il dit qu'il est chez lui alors qu'il est à côté de lui.
Je préfère encore Lost Highway. Mais Mulholland Drive, il y a ces deux femmes qui. Mais j'ai une petite préférence pour Lost Highway.
Qui a révélé Naomi Watts, mais qui n'a pas trop révélé Laura Harring, qui n'a pas fait énormément de choses. Ouais. Laurent,
allez,
les cadeaux pour
trois cadeaux pour Arnaud Desplechin. D'abord, Sophie, numéro spécial Cannes, c'est de saison, labellisé par France Inter, et plein de choses, notamment un entretien à Dynamite avec Vincent Maraval, le producteur. Deuxièmement, vous étiez à Cannes, je crois, l'an dernier, au sein d'un jury. Vous n'avez rien donné au film de Jim Jarmusch, Patterson. Eh bien, il sort en DVD chez Le Pacte et pour Télérama. D'ailleurs, c'est notre Palme d'Or. C'est démarqué Télérama, notre Palme d'Or sur la pochette. Mais on vous le donne volontiers, ce DVD de Patterson.
Je le prends volontiers. Si, bon. Si vous voulez, le sentiment de solitude que j'ai en recevant ce DVD, parce que je me souviens avoir plaidé pour ce film.
Ah, quand même!
Non, attendez, je l'ai adoré, ce film. Et j'étais seul dans le jury. Mais mon Dieu, mais quels les moments de solitude. Et alors, j'étais celui qui parlait le moins bien anglais. Et alors, tous les membres du jury disaient, toutes les poésies là-dedans sont lamentables. Et alors, moi, j'étais le dernier à parler. Et avec mon épais accent roubaisien, je disais, it seems that these poetries are really great, etc. Et alors, évidemment, j'avais aucune crédibilité, vous voyez, à cause de mon accent invalidé. Et alors, je me faisais l'avocat du film et j'ai perdu. J'ai perdu lamentablement. Bon, alors là, j'ai le DVD, j'ai gagné.
Ouais,
merci beaucoup. Et puis on vous donne aussi cette revue de cinéma qui s'appelle Réplique, qu'on trouve plutôt en librairie mais pas en kiosque, avec qui s'est spécialisé dans les entretiens. Eugène Green, Sébastien Bec-Bédé notamment et Bruno Podalides font partie des 5 entretiens de ce numéro 8 qui vient de paraître. C'est une belle revue parce que ce sont des entretiens de fond et on en a besoin quand on parle de cinéma.
Je la connaissais, voilà. Dans les librairies. Ouais, c'est une très belle revue.
Non seulement il a aimé Patterson de Jim Jarmusch, mais en plus il a réalisé un film qui va ouvrir Cannes cette année, il s'appelle Arnaud Desplechin.
Il faut aller
ça
voir.
Ça sort mercredi prochain. Merci beaucoup, beaucoup.
Merci Arnaud Desplechin.
Les infos sont notre site, Laurent.
Oui, franceinter.fr, bien sûr, vous y trouvez tout.
Nous allons laisser les voix du générique à vos deux actrices. Voici donc Charlotte et Marion. Au revoir.
C'est une émission inspirée par tous les films de cinéma.
Il y a des réalisateurs et des acteurs.
Il y a aussi des scénaristes et des chefs opérateurs.
Les prises de vue sont des prises de son.
Sporto Cantès a écrit la musique du générique.
Les morceaux ont été choisis par Muriel Pérez.
Martine Messonnier s'est occupée de la préparation.
C'est une émission réalisée par Anne Weinfeld.
Elle est produite et présentée par Christine Masson et Laurent Delmas.
Et moi, Charlotte Gainsbourg, j'y étais.
Et moi, Marion Cotillard, j'y étais.